en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris en 1954, Yves Milquant, entré à l'Académie des Beaux-Arts en 2001, s'est consacré à la tapisserie pendant de longues années. Il a notamment travaillé à Aubusson et réalisé des décors pour la manufacture de Sèvres. Il a également eu pour maître spirituel le célèbre Jean Lursa. Aujourd'hui, il s'adonne à la peinture géométrique abstraite, à la sérigraphie et à la sculpture. Nous l'accueillons dans notre studio. Bonjour Monsieur Milquant.
Bonjour Madame.
Vous avez un style très particulier, très intéressant, dont nous allons parler dans quelques instants. Est-ce que vous pourriez nous le définir? On dirait parfois des puces électroniques ou des nouvelles technologies, des peintures multimédia. Ça évoque beaucoup de monde et d'univers. Qu'est-ce que cela signifie pour vous?
Mais à vrai dire, ce sont les spectateurs qui découvrent dans ma peinture certaines technologies. Mais personnellement, d'une part, je ne les connais absolument pas et je ne les recherche pas. Il se trouve que, pour parler vulgairement, j'ai ça dans le crâne et je ne sais pas pourquoi ni comment. Et voilà, c'est venu petit à petit. Et les industriels, souvent, ont trouvé dans mon travail une image de leur produit. Mais ça n'a pas été la démarche inverse.
C'est vrai qu'aujourd'hui, plus que jamais, vos peintures sont en lien avec notre époque. Pourrait-on revenir à la genèse et à votre goût pour l'art? Comment le définiriez-vous? Quand avez-vous su que votre goût pour l'art serait définitif?
Oh, je pense que c'est depuis ma plus tendre enfance, tout en ignorant évidemment la notion d'art, mais en pensant et en étant passionnément attiré par le dessin et par la peinture. J'ai senti très vite que c'était la chose qui me plaisait le plus. Et je me suis mise à reproduire toutes les images qui me tombaient sous la main, paysages, nuages. C'est curieux, comme j'aimais beaucoup les avions, ils étaient dans le ciel, il fallait dessiner des nuages et peindre des nuages. Et donc, je me souviens que très jeune, enfin je ne sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans, très vite j'ai appris à dessiner des nuages, à peindre des nuages.
Comment avez-vous démarré dans ce monde?
Je vous dis, tout en crayonnant. Dès ma plus tendre enfance, mon père et mon grand frère dessinaient très bien. Et donc, j'ai recopié, j'ai essayé de les imiter. Et voilà, c'est comme ça que la vocation est arrivée, sans que je me rende compte.
Vous entrez à l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Quels souvenirs en gardez-vous?
J'ai considéré ça comme une chance extraordinaire. Et j'y ai été très heureux. D'une part parce que si je n'avais pas réussi et si je ne réussissais pas, je retournais dans la vie du travail parce que je n'avais pas les moyens de faire autre chose. Et d'autre part, je découvrais le monde de l'art là, dans toutes ses disciplines, dans toutes ses tendances et toutes ses époques évidemment. Alors c'était une découverte absolument merveilleuse.
Vous avez eu de grands moments dans votre carrière, des belles rencontres. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'une d'entre elles?
Ah, mais évidemment, la plus spectaculaire, la plus importante pour moi a été la rencontre de Jean Lursa à Saint-Céré en 1952, lorsque je suis allé le voir. C'est lui qui a ouvert la porte de son château et à ce moment-là, il y a eu un flot de musique de Handel extraordinaire et je me suis trouvé nez à nez avec ce grand mur de contreplaqué sur lequel il y avait une quantité de calque qu'il manœuvrait avec l'aide d'un ou deux assistants. Et alors il m'a accueilli extrêmement gentiment et nous avons discuté pendant une demi-heure. Et à la fin, il m'a véritablement plus qu'incité, il m'a vraiment conseillé vivement de me mettre à la tapisserie, discipline que je n'avais jamais touchée. Et voilà, donc c'est lui qui m'a fichu ce virus.
Vous le revoyez par la suite?
Je l'ai revu à la fin de sa vie parce que nous avons eu un programme commun pour la nouvelle faculté des sciences de Rennes. Louis Arech, l'architecte, lui a commandé une tapisserie monumentale de 43 mètres carrés, une tapisserie sur le thème des sciences naturelles. Et le même architecte, après, s'est tourné vers moi, j'ai eu cette chance, pour me confier une tapisserie qui ferait face à celle de Lursa, sur les sciences chimiques et physiques.
Beau voilà. Privilège.
Alors donc, à ce moment-là, je l'ai revu. C'était donc une quinzaine d'années après, si mes souvenirs sont bons. C'était en 65. Oui, en gros, ça venait une quinzaine d'années après. Et je l'ai revu à plusieurs reprises parce que il souhaitait voir mes projets, mes maquettes. Il était peut-être un peu inquiet sur l'harmonie colorée. Et effectivement, pour les sciences physiques et chimiques, à l'époque, je pensais faire une tapisserie dominée par les bleus. Je trouvais que c'était beaucoup plus chimique que d'autres couleurs, chimiques et physiques. Par contre, lui avait une palette de noir et de jaune très brillant. Alors, lorsque j'ai été lui montrer différentes maquettes, j'ai fait au total une quinzaine d'études préparatoires. Très vite, j'ai senti qu'il souhaitait que je m'aligne sur sa gamme de couleurs. Et c'est ce que j'ai fait. C'était le maître, j'étais jeune débutant, et donc il était normal que je me plie à ses désirs, et je l'ai fait avec plaisir. Et je pense que l'ensemble, bien que très différent graphiquement, fonctionne bien.
Quel souvenir gardez-vous de la tapisserie à Aubusson ? Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette étape ?
Mais la tapisserie d'Aubusson est morte actuellement. Enfin,
elle reste dans le patrimoine, elle reste ancrée dans nos imaginaires.
Oui, oui, bien sûr. Mais je veux dire que comparativement à l'époque d'après-guerre, autrement dit, moi j'ai commencé à faire ma première tapisserie en 1956. C'était la pleine période où les ateliers fonctionnaient à plein. Par exemple, Lissier, qui m'a principalement tissé, les ateliers Pinton. Lorsque je faisais mes tapisseries, les ateliers Pinton comportaient 125 lissiers. Et lorsque, 15 ans après, je suis allé récupérer mes cartons, il n'y en avait plus que 4. C'est vous dire, pas la décadence, mais vraiment le...
Changement de mode, peut-être ?
Oui, le changement de mode. La tapisserie était devenue trop chère. Et effectivement, à partir de ce moment-là, les collectionneurs ont considéré qu'il valait mieux acheter une peinture unique qu'une tapisserie qui n'est jamais qu'un multiple, puisqu'une tapisserie peut, comme les sculptures, être tirée à 8 exemplaires numérotés. Alors voilà, donc il y a une défection, mais surtout due au prix de revient de la main-d'œuvre. Ça a été très net après le premier choc pétrolier.
Pour parler et revenir au grand moment de votre carrière, est-ce que vous pourriez nous dire quel est cet événement important pour vous dans votre carrière ? Est-ce que c'est les décors pour la manufacture de Sèvres ? Est-ce que c'est d'autres moments ?
Non, le grand moment, c'est ça, c'est la rencontre avec l'URSA et c'est la part de ma vie que j'ai consacrée à la tapisserie. Mais tout était intéressant. La réalisation des corps de Sèvres, c'était passionnant. Je me suis toujours passionné énormément pour une quantité de choses. Simplement, je n'ai pas toujours eu l'opportunité de les réaliser, malheureusement. Mais j'avais un intérêt fou et un amour fou pour le métal, et en particulier pour l'acier inoxydable. J'ai pu faire de grandes réalisations, mais pas autant que je l'aurais voulu, toujours à cause de ce premier choc pétrolier. Où ça a été terrible, on ne se rend pas compte, mais pour beaucoup d'artistes, à ce moment-là, il y a eu un passage abrupt, très douloureux.
La peinture, c'est également une passion. Comment vous la vivez ?
Ah oui,
vous travaillez beaucoup.
C'est la passion. C'est la passion, c'est la liberté totale. Le fait de devoir se plier à une discipline, ce sont des contraintes, mais elles sont parfois passionnantes aussi. Alors que la peinture, c'est la liberté pour moi, la liberté de concevoir, la liberté de réaliser, mais au travers d'une certaine rigueur, d'une certaine discipline que je me suis imposée. Je me suis imposé des codes, une manière de travailler qui est assez exigeante, mais à part cela, elle contribue aussi à l'expression de ma liberté.
Pourriez-vous nous citer une œuvre dont vous êtes particulièrement fière ou que vous avez apprécié réaliser ?
Je vais paraître très prétentieux si je vous dis que j'en ai plusieurs.
Bah, dites-nous les réalisations qui ont été les plus riches de sens pour vous.
Les plus riches de sens, ce sont certaines tapisseries, en particulier celle qui m'a valu de participer à la première Biennale internationale de Lausanne. Une autre qui n'est pas loin d'ici, qui est à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. Et puis d'autres qui n'ont pas eu de destination peut-être brillante, mais dont je suis fier, qui me satisfont sur le plan de la coloration, de l'équilibre, du graphisme. Alors, en peinture, c'est pareil. J'ai certaines toiles préférées et d'autres moins, mais que je ne renie pas non plus. Il y en a certaines qui provoquent en moi une certaine joie. J'en suis fier. Je me dis que là, j'ai à peu près bien travaillé. Ce qui n'est pas toujours le cas pour d'autres. On ne peut pas produire que des réussites coup sur coup, ça n'est pas possible.
Est-ce que vous êtes dur avec vous-même ? Est-ce que vous recommencez parfois des milliers de fois ?
Je ne peux pas recommencer. Ma technique ne me permet pas de recommencer. Si c'est raté, c'est raté. C'est terminé.
Je recommence. Complètement à autre chose ?
Ah non, je peux recommencer une toile, mais ce qui m'arrive rarement parce que j'agis avec prudence et avec discernement, avec rigueur, je vous l'ai dit. Quand je ne suis pas sûr de moi, je fais une quantité d'esquisses colorées ou non. Et voilà, donc, grosso modo, je fais tout pour réussir. J'ai une passion pour l'aviation, alors je vous prendrai comme exemple que je décolle et je fais tout pour atterrir dans de bonnes conditions. tous les moyens sont réunis, je fais tout pour.
Yves Milquand, est-ce que vous avez un art préféré entre tous les arts que nous venons d'énumérer, la tapisserie, la sculpture, la sérigraphie ? Est-ce qu'il y en a un que vous préférez travailler ?
Ça dépend des moments. Je suis toujours très heureux de peindre, c'est évident. Mais par moments, j'ai la nostalgie de sculptures en métal que j'aurais aimé réaliser, que j'aimerais encore réaliser. Ou même de nouveaux décors pour la manufacture de Sèvres ou pour toute autre chose. Non, je suis toujours prêt. C'est la devise des scouts, dont j'ai fait partie d'ailleurs. Et je suis toujours prêt, toujours curieux de toucher à de nouvelles découvertes, à de nouvelles exigences. Les contraintes ne me font pas peur, au contraire. C'est un défi à relever et ça me plaît beaucoup.
Est-ce que vous pourriez nous parler et nous dire si vous avez des sources d'inspiration ?
Eh bien non. Voilà, ça alors absolument pas.
Ça vient d'un coup, c'est...
Comment ?
Ça vient naturellement,
c'est... Ah, naturellement, parfois avec difficulté. Mes deux seules sources d'inspiration, c'est le papier calque et le rotring, voilà. Je ne vais pas pour reproduire une technologie ou un univers. Cet univers est en moi, c'est purement mental, cérébral. Et je l'exprime sur du papier, et j'installe toutes ces formes pendant un certain temps. Ça chahute, ça ne va pas, et puis petit à petit, ça se range, ça commence à prendre corps. Et voilà, mais je ne peux me référer à rien, absolument rien. Au contraire, ça serait un blocage absolu. Je l'ai expérimenté car une fois, j'ai un élève qui, il y a longtemps de cela, au début des circuits imprimés, m'avait apporté un circuit imprimé, trouvant que mes peintures avaient certaines analogies avec ce processus, m'avait apporté un circuit imprimé en me disant « Tenez, ça vous inspirera, ça pourra vous aider, etc. » J'ai pris le circuit imprimé, je l'ai rangé parce que non seulement ça ne m'inspirait pas, mais ça me paralysait totalement. Je ne peux pas réfléchir à une finalité. Elle se fait, elle se crée toute seule. Voilà, je vous ai dit, c'est purement mental. C'est un registre, je n'ose pas prononcer le mot intellectuel, c'est très prétentieux, j'ai horreur de cela. Mais voilà, j'ai une quantité de formes dans la tête qui ont besoin d'apparaître sur le papier.
Est-ce que votre processus de création se déroule dans la joie ou dans la douleur ?
C'est toujours dans la joie, ce qui ne veut pas dire que je travaille toujours dans la joie. Comme tout le monde, j'ai traversé des drames ou des épreuves. Non, non, c'est une joie de me mettre à ma table à dessin et de commencer à chercher. Ça ne va pas toujours tout seul, c'est certain, mais non, non, c'est incontestablement une joie.
Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou le contraire ?
Ah, je suis extrêmement optimiste, même si je suis hypersensible, je peux éclater en sanglots pour un rien. Mais je suis d'une nature joyeuse et optimiste. Je ne sais pas pourquoi, je suis né comme ça. Je n'y peux rien, c'est moi, voilà.
Et vous aimez d'autres formes d'art, vous aimez la musique, je crois. Est-ce que vous peignez en écoutant de la musique ?
Ah oui, ah oui.
Et qu'est-ce que vous aimez comme musique ?
Oh là là, il faudrait une émission d'une heure ou deux heures ou d'une journée, hein, parce que j'ai un registre très large. Non, globalement, j'aime en priorité la musique classique, bien sûr, ça n'a rien d'original. J'aime Jean-Sébastien Bach, c'est mon Dieu, ça n'a rien d'original non plus. mais j'aime tout ce qui est avant lui d'une manière étonnante. J'aime la musique baroque. Je réapprends, je retrouve la musique romantique que j'avais eu tendance à délaisser, et en particulier celle d'un de nos plus illustres confrères qui s'appelle Berlioz. Et à part ça, j'aime toutes les musiques. J'aime le jazz, j'aime les musiques iraniennes, japonaises, j'aime arabes. Non, je ne suis pas raciste du tout.
Vous avez beaucoup de passions dans la vie. Vous pourriez nous en citer d'autres ?
J'aime beaucoup l'aviation. Je ne suis pas pilote, mais j'ai une fascination pour les avions. Une fascination qui est due à la guerre. Parce que, ayant vécu toute la guerre dans le nord de la France, j'ai vu passer des milliers, peut-être s'agit-il de centaines de milliers d'avions, et que je connaissais par cœur, je connaissais leur silhouette, je connaissais le bruit de leur moteur. Pendant la guerre, j'avais 9 ans à la déclaration de guerre, j'en avais 13 à la fin. Je n'avais qu'une envie, c'est d'être pilote de chasse. Alors voilà, j'ai eu comme ça 3 grandes envies dans ma vie, être violoniste, pilote de chasse et peintre, vous voyez.
Violoniste ? Mais vous avez également une autre passion qui va plutôt vers l'Italie et les villages. Est-ce que vous pourriez nous en parler ?
Ah, l'Italie, j'avais fait plusieurs voyages, ça m'a toujours fasciné, l'Italie m'a toujours fasciné, mais où je l'ai réellement découverte, c'est lorsque j'ai eu une galerie à Brescia qui m'a permis, lorsque je gagnais quelques sous, de prolonger mes voyages en faisant du tourisme et en traversant des villages. J'ai rayonné, je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait en Italie, mais le nombre de chefs-d'œuvre qu'il y a là-bas, que ce soit des maisons, des châteaux, des églises, des remparts, des murailles,
des fresques,
tout. Tout est extraordinaire. Alors je ne parle pas évidemment des peintures et des grands maîtres. Vérone.
Vous y retournez régulièrement ?
Non, plus maintenant, hélas, je suis en manque. Je suis sevré, là, en ce moment. Non, il y a une dizaine d'années que je n'y suis pas retourné.
Pourriez-vous nous parler de votre sentiment de l'art en ce moment, l'art d'aujourd'hui, à cheval entre le marché, différentes notions ? Est-ce que vous pourriez nous donner votre sentiment sur cette définition de l'art aujourd'hui ?
Oui, je peux vous donner quelques réflexions. Je ne suis pas capable de vous faire une démonstration de ce que je pense, mais je dois dire que je suis un peu écœuré par la manière dont le marché de l'art, ce mot « marché » déjà m'exaspère, on a l'impression d'assister à la bourse, à la montée et à la baisse des actions selon les peintres. Vous m'achetez un peu de Picasso, vous me vendez du Chirico, etc. Quoi. On en est là, encore que là, ce sont des valeurs sûres. Mais actuellement, je trouve que on lance de jeunes peintres ou de moins jeunes comme avec les mêmes méthodes de marketing qu'on lance des lessives. C'est absolument la même chose. Et voilà, alors je trouve que ça n'a plus d'intérêt. Je suis souvent écœuré aussi par de prétendus collectionneurs qui effectivement achètent des signatures plutôt que l'art. Ils ne regardent pas tellement le tableau en lui-même ou l'œuvre en elle-même n'a pas tant d'intérêt que la signature et ce que vaut la signature. Voilà. Ça, alors, ça me révulse aussi. Et puis, ce domaine dépend tellement de puissance d'argent, de cotes, de critiques d'art, de conservateurs qui ne font pas toujours leur travail correctement ou... Enfin bref, il s'agit aussi de réseaux, il faut être un homme de réseau, il faut trouver les bons réseaux, et il faut les chercher, il faut vouloir les trouver. Or ça, ce sont des choses que je ne sais pas faire parce que je n'ai jamais eu envie de les faire. Alors voilà, bon, bah ça c'est un point de vue personnel très discutable.
Pouvons-nous parler à présent de votre entrée à l'Académie des Beaux-Arts ? Le 27 juin 2001, vous êtes élu au fauteuil de Jean Devanne,
oui.
Décédé en 1999. Vous présidez l'Académie en 2008. Pourriez-vous nous parler de la réception du jour où les académiciens sont reçus sous la coupole ? Le jour où vous êtes reçu sous la coupole, quel souvenir en gardez-vous ?
J'en garde le souvenir d'une peur, parce que c'est impressionnant à tout point de vue. Je ne suis pas orateur, je suis mauvais orateur. Je suis timide, je n'en ai pas l'air, mais je suis très timide de nature, enfin moins que je ne l'ai été. J'ai fait des progrès, il est temps d'ailleurs. Mais non, c'était très impressionnant, émouvant bien sûr. J'ai surtout voulu rendre un hommage affirmé à Jean Dewane, dont j'aimais beaucoup l'œuvre. Nous nous sommes croisés une fois, mais c'est tout. Et cependant, ça ne m'empêchait pas d'avoir une admiration très profonde pour lui. Et très curieusement, nous sommes de la même région. Nous sommes nés à 15 kilomètres l'un de l'autre. Et dans les années 80, un article d'un magazine du Nord avait cité trois peintres du Nord dans le mouvement constructiviste. Et nos photos étaient reproduites dans cet article. Il s'agissait de l'empereur Ho, de Jean Dewane et de moi-même. Voilà. Et il s'est trouvé que 20 ans après, je lui succédais. C'était très émouvant, oui.
Nous arrivons à la fin de cette émission. Une dernière question sur l'avenir, peut-être. Nous dire un mot sur vos prochains objectifs. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter de continuer à peindre ?
Il faut me souhaiter longue vie. Mais pour continuer à peindre, oui, bien sûr. Maintenant, c'est de plus en plus difficile physiquement. Je n'ai plus la résistance que j'avais avant. Il faut rester debout des heures et des heures. Il faut manipuler des toiles. Je les trouve de plus en plus lourdes. Tout est à l'avenant. Mais ceci étant dit, j'ai 1000 projets en tête et je sais que je ne les réaliserai pas. Alors, il faut choisir. J'essaye de trier un peu ce qui est le plus urgent. Il faudrait aussi que je mette de l'ordre dans mes affaires, que je décide certaines choses. Mais voilà, bon, mais c'est très joyeux tout cela.
Est-ce que vous vous sentez à l'aise dans le siècle d'aujourd'hui ?
Oui et non. Je fais partie de cette dernière génération qui a vu tant de progrès, enfin de drames aussi. Je suis enthousiasmé partout. Vous savez, ça paraît une pointe bique, ça vous paraît tout à fait normal, mais quand c'est apparu, c'était une révolution. Le transistor, ce que nous appelions transistor, était aussi une révolution. Alors petit à petit, la technologie a fait de tels progrès. Alors maintenant, je ne vous parle pas d'Internet. Quand d'un clic, on peut parcourir le monde, trouver des reproductions de telle et telle chose, de tel et tel tableau, c'est phénoménal. Dans les années 60, j'avais fait l'acquisition d'une encyclopédie en 10 volumes, mais je n'y touche plus, c'est terminé. Alors non, je suis fasciné, mais d'autre part, je trouve que nous sommes dans un monde de plus en plus difficile, codé, qui est policé même, je pourrais dire, et agressif. Et ça, vraiment, il y a une différence entre le début de ma vie et la fin. Et ça me fait peur pour les générations qui suivent, mais personnellement, ça me révolte un peu, ça me révulse.
Merci beaucoup Yves Milquant d'être venu dans cette émission. Ainsi, nos auditeurs vont pouvoir vous connaître ou vous redécouvrir, connaître votre art, de la tapisserie à la peinture, en passant par la sérigraphie ou la sculpture. Je rappelle que vous avez été élu à l'Académie des Beaux-Arts le 27 juin 2001 et que vous avez présidé cette académie en 2008.